Tu t'en vas maintenant? Hein? Si tu as juste le temps de dire à Zvidana que je m'occuperai de la porte de sa chambre à 7h30, pas maintenant. Je m'excuse, je suis trop occupé. À 7h30, j'irai voir, j'arrangerai ça. Bonjour Fatima, bonjour Malkas. Bonjour à beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui. Nous avons reçu une gentille lettre aujourd'hui du Portugal. Magnifique. Voilà. Grand merci à cette chère petite Larissa et à son frère Danilo. Majesté, à toi la majesté, à Jésus, sois louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Alors, je connais un tout petit peu quelque chose que j'ai retenu d'une famille portugaise qui est venue chez nous. Temos Victoria, Temos Victoria, au nom de Jésus. Voilà. Si ma femme et mes filles étaient là, elles chanteraient le reste. Nous allons regarder à des phénomènes climatiques un petit peu bizarres qui sont décrits dans la Bible. Commençons par le psaume 50, verset 12b. Verset 12. Psaume 50. Verset 12b. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Voilà ce que Dieu dit. Voilà ce que Dieu dit à tous ceux qui font des sacrifices pour lui. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Clairement, dans ce psaume 50, il y a des choses formidables. Je vais lire un petit peu, pas tout. Dieu, l'Éternel parle, il convoque toute la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant, donc tous les pays. Puisqu'en fin de compte, le soleil ne se couche pas, c'est la terre qui tourne. Et sans cesse, le soleil éclaire la terre. La terre tourne sur elle-même en 24 heures, à raison de 473 mètres secondes. La terre tourne. C'est une immense boule qui tourne à une vitesse folle, 18 400 km/h. Et tout cela est stable, vous ne le voyez même pas. C'est tellement bien réglé, ça ne commence pas à ralentir ou à accélérer, c'est toujours la même vitesse. C'est pour ça que la Bible dit que les fondements de la terre sont bonté et fidélité de l'Éternel. De Sion, donc Jérusalem, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Chers amis, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que les sacrifices humains, les sacrifices de certaines religions qui font des sacrifices humains, ou les sacrifices d'animaux, comme faisaient les Juifs, ça n'a pas d'importance. Puisqu'au verset 12, il est dit, « Si j'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. » Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, donc un cœur reconnaissant. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut, donc engage-toi envers moi. Et invoque-moi au jour de la détresse. Parle-moi quand tu as des misères. Parle-moi quand tu as besoin. Et ne compte pas sur tes propres forces. C'est ça que ça veut dire. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alors, tu me rendras grâce. Tu me diras merci. Tu seras reconnaissant. Et donc, il y a bien sûr dans notre humanité toute une série de tendances à faire des sacrifices par soi-même, des sacrifices d'animaux, des sacrifices même humains dans certaines religions, pour accomplir un rite de purification pour demander pardon. Or, Dieu dit ici qu'il n'en a pas besoin. Rassemblez-moi au verset 5, mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Le sacrifice de Jésus à la croix suffit. Le sacrifice de son Fils, qui est ressuscité évidemment, qu'il vit au siècle des siècles. Voilà. Maintenant, je voudrais bien, si vous voulez, lire Josué, chapitre 10, verset 11. Josué, chapitre 10, verset 11. Comme ils fouillaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, j'ai visité cet endroit, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres, de grêle, jusque Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Voilà donc une confrontation entre le peuple d'Israël et cinq rois très puissants, qui ont mis des armées puissantes pour briser Israël, et ils sont brisés par des grosses pierres venues du ciel, des pierres de grêle. Voilà un exemple même que, pour beaucoup, on ne veut pas entendre. Parce qu'on se dit, c'est de la blague, c'est la Bible, elle raconte des bêtises, tout ça c'est des images, c'est pas la réalité. Eh bien, on va voir, on va approfondir ce sujet, pour voir si c'est pas la réalité. Psaume 18. Donc Josué, c'est environ, si vous voulez, 1300 avant Jésus. Ici David, c'est 1030 avant Jésus. Psaume 18. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais céleste, il a entendu ma voix. Mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent. Ils furent ébranlés parce qu'il était irrité. Il s'élevait de la fumée de ses narines. C'est une image, bien sûr, parce que Dieu n'a pas de narines, mais ce qu'il y a, c'est la fumée des volcans. Il s'élevait de la fumée de ses narines, un feu dévorant sortait de sa bouche, comme le dragon qui crache des flammes, mais Dieu n'est pas un dragon. C'est une force de destruction sur le méchant qui vient de Dieu. Mais c'est donné comme une image, comme si ça sortait de sa bouche. C'est lui qui exerce sa colère sur les ennemis. Il en jaillissait des charbons embrasés, donc des pierres de volcan, incandescente. Hein. Il abaissa les cieux, il descendit, il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin, il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et de sombres nuages. Donc on voit ici que Dieu s'est manifesté sur des nuées. Or, dans l'Épître aux Thessaloniciens, Paul dit que lorsque Jésus ressuscitera les croyants, s'il les fera monter auprès de lui, ce sera sur des nuées. C'est pas tout de suite au ciel, sur des nuées. Et que ceux qui sont croyants à ce moment-là, quand il revient, il les changera, ils ne connaîtront plus ni malheur, ni deuil, ni chagrin, ils seront aussi élevés sur les nuées. Donc, les ressuscités et ceux qui sont sur terre à ce moment-là, qui sont vraiment en ordre avec le Seigneur. Et on voit l'image, la photo, si vous voulez. David a eu la révélation de ce qui allait se passer. De la splendeur qui le précédait s'échappaient les nuées, l'encens de la grêle et les charbons de feu. L'Éternel tonna dans les cieux, le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons de feu. Voilà. Charbons de feu, donc des pierres volcaniques enflammées, de la lave incandescente. Et ce n'est pas rigolo. J'ai connu des jeunes qui étaient partis en Indonésie avec des sacs à dos pour monter un volcan. Et ils se sont tous fait canarder, bombardés de pierres incandescentes. Ils ont tous été, heureusement que des gens de la région les avaient vus passer, ont été les chercher, les ont emmenés à l'hôpital. Ils étaient grièvement brûlés. Et je ne tracassais pas, ils ne sont jamais remontés. Les petits audacieux. Inconscient. Chapitre 11, psaume 11, verset 6. Je commence au verset 4. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste, donc il connaît le cœur, il connaît toutes les pensées. Il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. L'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Nous voyons donc qu'il y a une séparation qui se passe entre les humains. Certains subissent une colère formidable. Effrayante, et d'autres subissent la protection, l'amour de Dieu, et ils sont bien entourés de la part du Seigneur et de ses anges. Prenons un livre des juges, ça c'est dans les années 1200, 1100 avant Jésus. Juges, chapitre 5. Juges chapitre 5, versets 4 et 5. Vous verrez pourquoi après je vous donne la raison pour laquelle je lis ces versets-là. Juges chapitre 5, versets 4 et 5. Ô Éternel, quand tu sortis de Séir, quand tu t'avanças des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, les nuées se fondirent en eau, les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Séir, c'était une des villes qui existait là où il y a la mer Morte maintenant, comme Sodome et Gomorre. Cinq villes ont disparu, en fait, sous l'effet des tremblements de terre, de l'explosion des volcans, et Dieu a fait tomber des nuées d'eau sur eux en même temps qu'il y avait de la fumée, des charbons ardents, de la grêle et tout. C'est invraisemblable, mais c'est comme ça. Ça nous paraît bizarre. Mais c'est de la même façon que quelque chose se produit. Donc Séir et Édom, tout ça, c'est au temps de Lot, c'est 21 siècles avant Jésus. C'est écrit ici, bien sûr, en 1300. Mais ce qu'il y a, c'est que à l'époque où le livre est écrit, il y a eu une bataille, quelque part, où les hommes ne voulaient pas aller combattre, tellement les ennemis étaient forts, étaient farouches. Et c'est une femme. Et je connais des femmes comme ça, avec des caractères comme ça, n'est-ce pas, chers amis, parmi vous, il y a des femmes comme ça qui ont été entraîner les hommes à la bataille. Ce n'est pas toujours les hommes les plus courageux. Mon grand-père me l'a dit quand des milliers de gens partaient sur les routes de France avec les chariots et tout ça, que les Allemands bombardaient, et que les soldats français fuyaient. Ils se sont fait récupérer pour aller travailler en Allemagne, 5 ans, gratuitement, pour Hitler, comme des esclaves, à peu près tous en tout cas. Eh bien, ces avions mitraillaient, etc., les convois de réfugiés, et les hommes couraient comme des lapins, ils allaient très loin dans les buissons, dans les champs, et ils laissaient les femmes et les gosses, pour la plupart. Pas mon grand-père, pas les hommes de ma famille. Ni du côté maternel, ni du côté paternel. Je suis quand même content de savoir que je ne descends pas de personnes lâches. Je suis content. Je le dis franchement, c'est quand même un beau patrimoine, c'est un bon héritage. Mais la plupart des hommes laissaient les femmes et les gosses, alors les femmes avaient des gosses dans les bras, etc., couraient, trébuchaient, tombaient dans les fossés, les ruisseaux, un peu plus loin, et vous voyez la misère. Et puis quand les Allemands étaient partis, les hommes revenaient. Eh oui. Et recommençaient après. C'est quand même triste, tristouné. Donc les hommes ne sont pas toujours à la hauteur, et c'est ce qui s'est passé ici dans un récit où, à l'époque de Déborah, eh bien, il a fallu l'intervention de Dieu pour briser les ennemis. Parce que les hommes qui étaient derrière Déborah n'étaient pas motivés assez que pour combattre les Cananéens, les Philistins, qui étaient super armés, qui avaient des épées en acier, etc., des cuirasses en acier, des chars en acier, et de nombreux chevaux. Alors, qu'est-ce qu'il a dit dans Juges, chapitre 5 ? Verset 19, les rois vinrent, ils combattirent, alors combattirent les rois de Canaan, donc les ennemis. À Tanakh, j'ai visité l'endroit, aux eaux de Megiddo, il y a un ruisseau, le Kizon, qui coule dans une petite vallée vers le sud-ouest, ou qui vient du sud-ouest, qui va vers Megiddo, mais en tout cas, il y a une vallée là. Ils ne remportèrent nul butin, nul argent, des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Zizéra. Zizéra, le colonel, le commandant des armées cananéennes, philistines, très puissantes. Et on a combattu du ciel. C'est le ciel qui a combattu pour briser Zizéra. Le torrent de Kizon les entraînait, le torrent des anciens temps, le torrent de Kizon, mon âme foule aux pieds les héros. Alors, il est clair que dans d'autres textes, c'est évident, il y a eu des grêlons. Au chapitre 4, verset 7, je commence au verset 4, chapitre 4, verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidot, était juge, donc magistrat, en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel. Rama, c'est Bethléem, hein, et Bethel. Dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés, pour régler leur conflit entre eux. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Kedesh Nephtali, et lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël, va, dirige-toi sur le mont Tabor, prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali, donc de la région de Nazareth, du nord d'Israël, des enfants de Zabulon, j'attirerai vers toi au torrent de Kizon, Zizéra, chef de l'armée de Jabin, donc le colonel, et Jabin c'était le roi des Cananéens, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Oui, effectivement, il a été livré entre les mains, et ça tournait mal pour les armées ennemies. C'est assez... On pense toujours que ce sont des histoires, des blagues. Pourtant, moi j'ai dû prendre au sérieux la Bible à ce sujet le jour qu'un ami est revenu de Suède, un expert en assurance, et qu'il avait vu une base de l'OTAN détruite par des grêlons. Tout était détruit. Des grêlons d'un kilo environ. Alors, chers amis, vous avez... bien sûr, des explications de tout ça au chapitre 10 des Juges, vous pouvez aller le lire. Pourquoi est-ce que toutes ces personnes, ces hommes, n'ont pas le courage de combattre? Parce qu'ils sont idolâtres, ils n'ont pas une véritable vie pieuse avec Dieu. Ils sont mélangés, ils croient à tout. Et ils se laissent aller à leurs penchants, à leurs idées stupides. Et ils ne connaissent pas le vrai Dieu. Donc ils ne pouvaient pas avoir confiance dans les paroles de Déborah. C'est Déborah qui a mené le combat, qui les a entraînés. Et ils ont vu que Dieu intervenait, parce qu'ils n'en étaient pas capables. Combien de fois faudra-t-il que les hommes comprennent que Dieu est tout-puissant, qu'il a créé l'univers et qu'il est capable de briser les plus grandes armées du monde? C'est à ça qu'on va arriver tout à l'heure. Prenons le livre de Job, au chapitre 38. Le livre de Job est révélé, inspiré, donc donné par le Saint-Esprit, révélé, fait, Dieu en donne la connaissance à Job en 21 siècles avant Jésus, donc 42 siècles avant nous. Job 38, versets 22 et 23. Job 38, versets 22 et 23. Je vais commencer au verset 16. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer, tant que le magma en feu, le magma terrestre, est capable de produire de l'oxygène et de l'hydrogène et de produire l'eau? C'est prouvé maintenant. Il y avait un film de Arte il y a 2 ans, sur les volcans en Islande, et on a vérifié cela. On a découvert cela, parce qu'avant on ne le croyait pas. Mais moi je le croyais depuis longtemps, en ayant vu ce verset, je me dis, dans le magma, il y a des réactions chimiques qui ont créé l'eau qui est sur la Terre. Ce n'est pas un nuage qui a créé l'eau. Le magma terrestre a engendré l'eau, ensuite les fosses de l'abîme, de tous les grands abîmes marins ont été remplis, ensuite il y a eu un échauffement par le Soleil. Ensuite, cette vapeur est montée, a donné les nuages. Et les nuages, eh bien, sont retombés. Mais l'eau ne vient pas des nuages. L'eau vient du magma terrestre, d'une réaction chimique au sein de la Terre, purement commandée par Dieu. As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs de l'abîme? Les portes de la mort t'ont-elles été ouvertes? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu embrassé du regard l'étendue de la Terre? Parle, si tu sais toutes ces choses. Où est le chemin qui conduit au séjour de la lumière? Et les ténèbres, où ont-elles leur demeure? Peux-tu les saisir à leurs limites? Connaître les sentiers de leur habitation? Tu le sais, car alors tu étais né, et le nombre de tes jours est grand. Es-tu parvenu jusqu'aux amas de neige? As-tu vu les dépôts de grêle dans les cieux, que je tiens en réserve pour les temps de détresse, pour les jours de guerre et de bataille? Évidemment, ces dépôts de grêle, de pierre, il y a deux façons de voir les choses. Nos forêts d'Indonésie et d'Amazone, et toutes les grandes forêts, autre part, produisent énormément de micropoussières. On a observé ça avec des ordinateurs et des satellites. Ce sont des nuages entiers de micropoussières qui circulent autour de la Terre, sur certaines zones, par exemple pas le Sahara, et qui, en montant, sous l'effet de la chaleur du soleil, montent parfois jusqu'à 12-15 000 mètres, et là, des gouttes d'eau, de la vapeur d'eau se fixe sur la poussière, puis une deuxième molécule d'eau, etc. Et à un moment donné, cette poussière est entourée d'une masse d'eau suffisante que pour descendre, de prendre de la vitesse, et 9,81 m à la seconde d'accélération. C'est le G, comme on appelle ça, la vitesse de gravitation de tout ce qui est alentour de la Terre, qui va vers le centre de la Terre. Et ces petites poussières entourées d'eau, avec le froid qu'il y a dans l'espace, va donner de la glace. C'est ça le grêlon. Quand j'ai été en Israël et en Bulgarie, l'avion était à 12 000 mètres, il faisait 5, moins 50 à 12 000 mètres, 10 000 mètres, 12 000 mètres, moins. Mais quand j'étais à 14 000 mètres pour aller au Bénin, en Afrique, je suis passé au-dessus du désert, du Sahara, il faisait moins 72, moins 74, 74. Donc il y a c'est très froid. Et si les poussières montent jusque-là, il se met alentour de l'humidité, et puis tout d'un coup, ça forme la grêle qui descend alors sur 10-12 000 mètres avec une accélération progressive de G, 9,81 mètres seconde. Imaginez à quelle vitesse elle arrive au sol. Plus vite qu'un avion de chasse. Mais cette grêle est le résultat de la poussière venue de nos forêts et de la condensation qui s'est fixée dessus et des espaces très, très froids qu'il y a au-dessus de nous et qui permettent la condensation de l'eau. Bon, il y a bien sûr d'autres amas de grêle et de pierres de grêle qui ne sont pas dus à cela. Et ici, les dépôts de grêle qui sont tenus en détresse, qui sont en réserve pour les jours de détresse, pour les jours de guerre et de bataille. De quoi s'agit-il? En fait, avec des satellites, c'est de nouveau sur Arte, très tardivement, j'ai vu des photos de blocs de glace de 2-3 tonnes, 15 tonnes, 100 tonnes, 500 kilos, 200 kilos, de toutes les tailles, qui tournent autour de la Terre à une vitesse folle, à peu près à une altitude de 240 km. Et ils circulent. Et le jour que Dieu voudra les faire tomber, ils tomberont. Vous imaginez un bloc de glace de 100 tonnes qui descend avec une vitesse de gravitation de 9,81 m/s. Donc, on peut prendre tout ça pour de la rigolade, mais le texte de Job est confirmé par le fait que les satellites ont photographié, et j'ai vu les photos de ces blocs de glace. Alors, j'en viens à quelque chose qui est très important, Ézéchiel 38, et qui va se produire, à mon avis, bientôt. Vous savez que l'Iran, la Turquie et la Russie ont signé un accord pour attaquer les Kurdes en Syrie et en Irak, pour tout dévaster et pour prendre l'or, l'argent, le pétrole, l'eau chez les Kurdes. Mais on sait très bien que dans Ézéchiel 38, ils vont pas s'arrêter là. Ils vont pas s'arrêter à ces deux zones. Ils vont aller vers Israël. Et ils vont faire une guerre de butin, c'est-à-dire forcer le passage pour aller à l'Afrique. Puisqu'ils veulent redresser leur économie et asseoir leur puissance, puisque les relations avec l'Europe et les États-Unis sont tellement mauvaises qu'ils perdent de l'argent par milliards tous les jours pour l'instant. Et nous aussi. Sauf que l'Afrique n'est plus sous notre main, et les États-Unis et l'Europe, elle est de plus en plus sous la main des Chinois et des Russes. Et il y a juste un bouchon à faire sauter, c'est Israël, qui existe depuis 1948. Donc le butin, Job 38, et c'est l'Afrique. Mais, mes chers amis, quand ils vont envahir, ils vont avoir une raclée. Et c'est un signe extrêmement puissant. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est un signe puissant, les amis? C'est un signe puissant pour que les incrédules de ce monde se rendent compte que Dieu est puissant et que Dieu a autorité sur la méchanceté. Je ne peux pas tout lire, je lis simplement ceci. Ézéchiel 38, verset 18 et suivant. En ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, Gog, c'est donc la Russie, une partie, ou la Turquie, peu importe, Gog et Magog, c'est ces deux pays-là, marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère. Donc ça correspond au psaume que nous avons lu tout à l'heure, il ne faut pas oublier. Pas oublier ce psaume 50, et ce psaume 18 et ce psaume 11. Je le déclare dans ma jalousie, dans le feu de ma colère, en ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi. Les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre et tous les hommes qui sont sur la surface de la terre, les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, toutes les murailles tomberont par terre. Adieu les vieux châteaux ou les beaux châteaux. Attention aux grandes tours, aux grands buildings. Et chers amis, j'encourage les gens à quitter à temps tous ces grands bâtiments qu'on appelle les gratte-ciel, les buildings, avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est un grand séisme, un grand cataclysme géologique, mais il y a plus que ça. Verset 31, j'appellerai l'épée contre lui, contre Gog, donc la Turquie, sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Donc, au lieu d'attaquer les Juifs, ils vont se trucider entre eux. Il faut compter que la Turquie et tout ce qui est dans le Caucase, tous ces peuples-là, et tous les pays qui sont au nord, ne s'entendent pas bien. Ils ont fait une alliance pour attaquer Israël, mais en fait, ils ne se supportent pas. Ils sont jaloux l'un de l'autre, ils veulent avoir toujours le gros morceau du gâteau. Historiquement, ça a toujours été comme ça. Quand ils font des alliances, c'est toujours momentané et ça ne dure jamais. Et donc, ils se battent entre eux. L'épée de chacun se tournera contre son frère. Donc, auto-carnage. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur toutes ses troupes, et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Donc il y a l'Iran, bien sûr, et il y a des pays du Sud aussi. Je manifesterai ma grandeur, ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, elles sauront que je suis l'Éternel. Tous ces textes-là que vous avez là, il y en a au moins 15 dans la Bible pour dire la même chose. Alors, sachez bien ceci. Ce qui se prépare actuellement envers Israël est tout à fait sérieux et c'est la méchanceté de l'homme va être brisée par l'autorité divine. Sachez que s'il y a 3 semaines, ils ont passé un accord pour attaquer les Kurdes et envahir progressivement tout le Moyen-Orient, Iran, Russie et Turquie, avec l'aide de l'autre côté du pays du Sud, il y a tout de même une réaction en Israël, mais qui n'aboutira à mon avis à rien du tout, c'est une réaction humaine. Israël, le Bahreïn, les Émirats arabes, le Maroc, la Jordanie ont fait une réunion secrète il y a une semaine et ont fait alliance. Pourquoi? Parce que tous ces gens qui sont sunnites, la Sunna, donc de la Mecque, eh bien, se sentent en danger par rapport au chiisme, aux chiites. Les chiites venus d'Iran, c'est une autre branche de l'Iran, et ils sont dans la haine vis-à-vis l'un de l'autre. Donc tout d'un coup, voilà que les sunnites, qui n'aimaient pas les juifs, les sunnites se mettent avec les juifs, momentanément. Évidemment, tout cela, c'est une alliance qui peut-être ne portera pas de fruits. C'est Dieu qui va défendre la situation d'Israël. Israël actuellement ne peut pas se défendre avec ses missiles, ses avions de chasse. Les armements russes installés en Syrie sont bien trop puissants par rapport à l'équipement israélien. Jusque maintenant, ça a marché. Mais c'est évidemment, pour nous, une leçon qui nous attend, c'est la majesté de Dieu. Alors, la majesté de Dieu va éclater sur les nations, et les armées vont perdre leur gloire. Peut-être pas leur orgueil, mais leur gloire, leur équipement. Prenons Ésaïe, chapitre 24, verset 18. Donc Ézéchiel, c'était 620 à 580 avant Jésus, quand ces révélations-là sont données par le prophète Ézéchiel. Regardons Ésaïe, c'est 780, 760 avant Jésus. Ésaïe 24, 18. Ésaïe. Qu'est-ce que je lis dans Ésaïe 24, à la fin du verset 16? Les pillards pillent, les pillards s'acharnent au pillage, la terreur, la force et le filet sont sur toi, habitant du pays, donc sur Israël. Celui qui fuit dans les cris de terreur tombe dans la fosse, celui qui remonte de la fosse se prend au filet, car les écluses d'en haut s'ouvrent, les fondements de la terre sont ébranlés, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane dans la tempête, son péché pèse sur elle, elle tombe, elle ne se relève plus. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans le ciel l'armée d'en haut, donc les démons, et sur la terre, les rois de la terre, alliés aux démons. On le voit bien maintenant avec ce qui se passe. Hein. C'est le seul motif pour lequel ils ne raisonnent plus et qu'ils ne savent plus s'arrêter dans l'horreur, c'est parce qu'ils sont dirigés par l'armée d'en haut, les démons. Ils seront assemblés captifs dans une prison, ils seront enfermés dans des cachots. Après un grand nombre de jours, ils seront châtiés. La lune sera couverte de honte, le soleil de confusion, car l'Éternel des armées, donc des anges, fidèles à Dieu, règnera sur la montagne de Sion à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de tous ses anciens. Clairement, il y a quelque chose qui va se passer et qui est annoncé par le prophète. Regardons le même prophète, Ésaïe, au chapitre 17. Comment voulez-vous douter de la puissance de Dieu, mes amis? Si vous en doutez, vous serez les plus malheureux du monde. Et vous risquez de rester dans une situation lamentable, parce qu'après cette guerre, mais à l'Aigrelon, les dirigeants du monde, avec un faux Christ, vont diriger pendant ces temps. Et là, ça va être pire. Ils seront de nouveau, il y aura encore une guerre avec des grêlons pour les briser définitivement cette fois-là. Mais pendant ces temps, voulez-vous être de ceux-là qui vont souffrir? Non, je le suppose. C'est pour ça que je vous parle, les amis. Je tiens à vous avertir. Soyez en ordre avec le Seigneur. Rejoignez le peuple de Dieu, s'il vous plaît. J'ai pas dit le pape. J'ai pas dit les grands systèmes religieux. J'ai dit Jésus-Christ. Et rejoignez les communautés qui aiment Jésus-Christ, qui aiment sa parole, son enseignement, qui essayent de vivre comme Jésus le demande. Ainsi vous honorez Dieu et vous montrez votre bonne volonté envers Dieu et sa parole. Ésaïe, chapitre 17, verset 12. Oh, quelle rumeur de peuples nombreux! Ils mugissent comme mugit la mer. Quel tumulte de nations! Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. Les nations grondent comme grondent les grandes eaux. Ils les menacent et elles fuient au loin, chassées comme la balle des montagnes au souffle du vent, comme la poussière par un tourbillon. Quand vient le soir, voici, c'est une ruine soudaine, avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de tous ceux qui nous dépouillent, qui veulent nous dépouiller, le sort de ceux qui veulent nous piller. Alors, chapitre 18, terre où retentit le cliquetis des armes, c'est le cas de dire, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, donc partout, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires voguant à la surface des eaux, allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante qui écrase tout dans le pays et coupé par des fleuves, Syrie, Irak. Écoutez la trompette qui sonne, car ainsi m'a parlé l'Éternel. Je regarde tranquillement de ma demeure, par la chaleur brillante de la lumière, par la vapeur de la rosée au temps de la chaude moisson, avant la vendange, quand la pousse est achevée, quand la fleur devient un raisin qui mûrit, il coupe les sarments et les serpes, il enlève, il tranche les cèpes. Ils seront tous abandonnés aux oiseaux de proie des montagnes et aux bêtes de la terre. Les oiseaux de proie passeront l'été sur leurs cadavres, les bêtes de la terre y passeront l'hiver. En ce temps-là, des offrandes, ensuite, seront offertes au peuple vigoureux, à l'Éternel des armées. Il faut donc que ces peuples soient brisés pour qu'ils adorent le vrai Dieu de la Bible, le vrai Dieu de Jésus-Christ. Il faut donc qu'ils soient brisés. Avant, ils croyaient toujours dans leur orgueil, dans le cliquetis des armes. 2019, 3000 milliards d'armements, d'armes produites et vendues. 1990, 280 millions d'armements. C'est quand même un sacré progrès, passer à 3000 milliards. C'est ça le cliquetis des armes. Et donc, vous voyez qu'on est en train de les utiliser et ils vont tous aller vers Israël pour ramasser la totale raclée. Prenons Ésaïe au chapitre 34, verset 2. Bon, je prends au verset 1. Approchez, nations, pour entendre. Peuple, soyez attentifs. Que la terre écoute, elle et ce qui la remplit. Le monde et tout ce qu'il produit. Car la colère de l'Éternel va fondre sur toutes les nations. Sa fureur sur toute leur armée. Il les voue à l'extermination et les livre au carnage. Leurs morts seront jetés, leurs cadavres exhalent la puanteur, les montagnes se fondent dans leur sang. Toute l'armée des cieux se dissout. Les cieux ont roulé comme un livre, toute leur armée tombe, donc il s'agit des démons, comme tombe la feuille de la vigne, comme tombe celle du figuier. Et il faut bien vous dire ceci, que Dieu ne va pas rigoler, il a été patient jusque maintenant. Tout le chapitre 35, les amis, tout le chapitre 35 vous apporte une grande réjouissance. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. La solitude se couvrira de fleurs, tressaillira de joie avec chants d'allégresse et cris de triomphe, etc. Alors, un peu plus loin, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu arrivera, il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les yeux des sourds. Alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, des eaux jailliront dans le désert, des ruisseaux dans la solitude. Chers amis, lisez le chapitre 35 d'Ésaïe, ça vaut la peine. Nous avons beaucoup de chants dans notre communauté évangélique basée sur ce chapitre 35. Alors, au chapitre 40 d'Ésaïe, chapitre 40 d'Ésaïe, il ne faut pas m'appeler pendant que je fais l'enseignement, il y en a qui ne comprennent pas. Ésaïe 40, verset 12. « Qui a mesuré les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la paume, et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure ? Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance ? Qui a sondé l'esprit de l'Éternel ? Qui l'a éclairé de ses conseils ? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction ? Qui lui a appris le sentier de la justice ? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence ? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, une goutte d'eau au fond d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles, donc les nations, sont comme une fine poussière et s'envolent. Toutes les nations sont devant lui comme un rien, elles ne sont pour lui qu'un néant et vanité. Et donc, vous avez évidemment des prophéties dans ce chapitre qui sont intéressantes. Regardez par exemple le verset 22, « Celui qui est assis au-dessus du cercle de la terre » Donc, c'est Dieu qui est assis, et la terre était ronde, elle forme un cercle. Vous voyez ceux qui ont condamné, qui voulaient condamner à mort Galilée parce qu'ils disaient que la terre était ronde, vous voyez? Ils prétendaient avoir lu la Bible. Il y a au moins 5-6 passages dans la Bible qui disent que la terre est ronde. Ces grands ecclésiastiques catholiques qui ont menacé de mort, Galilée s'est rétracté, mais ils savaient que la terre était ronde, et la Bible dit elle-même. Alors, que dit Dieu aux nations ? Voici, vous n'êtes rien, votre œuvre est le néant. C'est une abomination que de s'appuyer sur vous. Ésaïe 41, verset 24. Eh oui, chers amis. Prenons Zacharie 14, 3. Zacharie 14, 3. Croyez-vous que Dieu a parlé en vain, hein, lorsqu'il dit ceci, par exemple, et si on lui demande, à Jésus, Zacharie 13, verset 6, si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçues. Voilà un exemple même de ce que Jésus, comment Jésus sera. ressuscité glorieux avec des trous dans les mains et les pieds. Pourquoi? Pour que tout le monde reconnaisse que c'est le même Jésus de Nazareth et qu'il n'est pas à confondre avec l'Antichrist, le faux Christ qui va vouloir régner sur la terre bientôt. Le vrai Christ est mort sur la croix pour nos péchés, il est ressuscité. Et il porte toujours les marques de son sacrifice sur lui. Il n'a pas besoin d'être confondu avec le faux Christ. Zacharie 14. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Les têtes des dépouilles seront partagées au milieu de toi. Non, les dépouilles de quoi? De tout ce faux monde qui attaque, qui va attaquer Israël, qui va attaquer les vrais croyants, mais qui ne pourra pas résister. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées. Une partie de Jérusalem, oui. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Donc, une partie de la ville, la partie du peuple élu, n'est pas exterminée, n'est pas touchée. Elle est gardée. Tous les autres, de toutes les nations installées à Jérusalem, là, subissent les fléaux promis, annoncés. L'Éternel paraîtra, il combattra ses nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront ce jour-là sur les montagnes des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient, à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Pourquoi? Parce qu'il y a des volcans, et il y a tellement de cendres dans le ciel, qu'on ne voit plus clair, on ne voit plus le soleil. Et c'est ce qu'on appelle l'hiver, c'est un faux hiver, il peut faire jusqu'à moins 5, parce qu'on est privé de moins 5 sur la terre, et que toutes les denrées, toutes les cultures périssent, parce que cette nappe de cendrée empêche le soleil de réchauffer la terre. C'est un hiver climatique, un hiver qui n'est pas dû à la saison. Un hiver exceptionnel dû à la présence de nuages remplis de cendrées. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni un jour ni une nuit. Vers le soir, la lumière reparaîtra. En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem et couleront moitié vers la mer orientale, donc la mer morte qui est salée pour le moment, moitié vers la mer occidentale, la mer Méditerranée. Et il en sera ainsi été-hiver. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel. Son nom sera le seul nom. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites. Leur langue tombera en pourriture dans leur bouche. Etc. Clairement, c'est ce qui est arrivé à l'époque de Sennachérib, quand il a attaqué Jérusalem et que toute l'armée de 180 000 hommes a dû repartir. Elle est morte dans la journée d'après à cause d'un fléau pareil. Et donc ça, c'était dans les années, le temps du roi Ézéchias, donc vers les années 600. 605, 600. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, donc des anges, la pluie ne tombera pas sur elle. Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la pluie dont l'Éternel frappera une nation. Nous avons intérêt à honorer le Seigneur. Mais vraiment, et je vais vous dire, c'est pas un calcul stupide. Le premier acte d'intelligence, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Le deuxième acte, c'est de reconnaître qu'on doit le respecter, se prosterner et admettre son autorité. Comment peut-on être admis auprès de Dieu et épargné, chers amis? Mais parce que nous aimons son Fils Jésus, qui est sans péché, qui est venu sur la terre pour nous parler de la sainteté de Dieu, de sa vérité, de sa bonté. Et si nous acceptons Jésus, si nous acceptons qu'il est mort à notre place pour nos péchés, alors nous sommes pardonnés de nos péchés et nous faisons partie de ceux qui échappent à la plaie des nations, qui échappent à la famine et au manque de pluie. Nous sommes de ceux qui échapperont, parce que nous serons enlevés. Comme Noé a été préservé lors du déluge, voulez-vous être préservé de tous ces maux? Donnez-vous entièrement au Seigneur. Je vous ai prêché aujourd'hui sur la grêle. Donc retenez toujours, il y a deux types de grêle. Il y a les blocs de glace qui sont à 240 km à l'entour de la Terre, qui gravitent, qui un jour vont tomber. Et à l'époque de cette guerre en nord d'Israël, mais à la fin des tribulations, mais la première guerre dans la vallée d'Israël, au nord d'Israël, ce sera des grêlons de 33 kilos. Et tout sera brisé. Dans la seconde guerre, ce sera des grêlons de 33 kilos, plus les gros blocs de glace, plus du soufre, du feu, etc. Et plus de soleil pendant toute une journée, la congélation quasiment, moins 5. Ça sera au bord de la mer Morte, au sud, dans ce qu'on appelait le pays des Moabites. Et c'est ce qu'on appelle la vallée des voyageurs, parce que il y avait aussi un passage pour les voyageurs dans ce coin-là. C'est pas le même endroit, c'est pas le même moment. Il y a à peu près 7 années de différence entre les deux, et 160, 180 kilomètres de distance, voire plus, comptons 200. Alors, pour la pluie, sachez que Dieu est le maître. Si la pluie manque, nous savons que notre civilisation peut tomber. Faut-il croire que Dieu est mauvais? Jamais. Il faut admettre que l'homme est mauvais et qu'il est en train de provoquer Dieu et que Dieu opère des signes avant-coureurs de sa colère. Pour le moment, c'est pas sa colère. Il opère des signes avant-coureurs pour nous annoncer si nous ne nous convertissons pas, nous ne nous repentons pas de ce qui va arriver. Soyez de ceux qui font preuve d'intelligence et d'humilité, acceptez le Seigneur. J'aurai beaucoup d'autres passages, au moins une centaine de passages à lire, sur la pluie, sur l'orgueil des flots, sur les sources des mers, sur les armes, sur le feu, etc. Tout cela, c'est un peu de trop, je pense. Je vous laisse avec cela. Faut-il des signes puissants pour croire en Dieu? Oui, mais nous allons quand même prendre quelque chose d'un peu plus serein. Le psaume 13. Le psaume 13. Alors, évidemment, y a-t-il une place spéciale pour Israël dans tout ça? Ça, c'est une question. Parce que énormément d'églises, d'abord catholiques, protestantes, évangéliques, baptistes, les calvinistes, tout ça ont mis ça de côté. Le royaume de Christ sur terre, ils l'ont mis de côté. Mes chers amis, c'est grave vis-à-vis de Dieu, parce qu'on annule au moins presque la moitié de la Bible. Et on offense Dieu. Nous ne voulons pas être de ceux-là qui offensent Dieu. Nous voulons respecter la Bible et croire dans la parole divine. De A à Z. Psaume 13. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? C'est parfois ce que tous nous pensons. Jésus sur la terre a beaucoup souffert. Il n'a jamais pensé que Dieu l'abandonnait. Mais à un moment donné, sur la croix, avec tous les satanistes qui étaient alentour de lui, et tous les esprits de démons qui l'accablaient, il s'est senti abandonné pendant quelques heures ou quelques minutes. Il fallait qu'il vive notre drame, et que ce drame de l'humanité où il se sent abandonné de Dieu, sa crucifié. C'est un drame fini. Avec la résurrection de Christ, nous avons la certitude que Dieu ne nous abandonne pas. La victoire nous appartient. La mort a été engloutie. Le deuil, le chagrin sont engloutis. Acceptez la victoire de Christ dans votre vie. La force et la puissance de résurrection de Christ sont notre force et notre puissance pour l'éternité. Psaume 13. Verset 2. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Nous savons que dans Ésaïe 59, c'est à cause de notre péché que nous ne voyons pas la face de Dieu. Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Ce n'est pas toujours une personne. Ce peut être un ennemi spirituel, Satan, qui m'attaque, qui me provoque des déprimes, des angoisses, des troubles, n'est-ce pas? Regarde, réponds-moi éternellement Dieu, donne à mes yeux la clarté du bonheur, la clarté de la confiance, la clarté de la joie, la clarté de la foi. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, du sommeil de l'incroyance, de l'incrédulité, de la désaffection, de la perte de toute confiance en Dieu, et dans ses promesses et dans sa Bible, et dans Jésus. Regarde, réponds-moi éternellement Dieu, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », Satan, évidemment, et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Relisez ce psaume, mes amis, relisez ce psaume. Dans le psaume 104, verset 31, « Que la gloire de l'Éternel subsiste à jamais, que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres. Il regarde la terre, elle tremble, il touche les montagnes, elles sont fumantes. Je chanterai l'Éternel tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai, que mes paroles lui soient agréables. Je veux me réjouir en l'Éternel. Que les pécheurs disparaissent de la terre, que les méchants ne soient plus. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. » Psaume 105. Louez l'Éternel, invoquez son nom, faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel, à son appui. Cherchez continuellement sa face. Cherchez continuellement sa face. Mes amis, Osée, chapitre 12. Chapitre 12, verset 7. « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice. » La piété, ce n'est pas le chapelet, le pèlerinage. La piété, c'est la foi. « Garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. » « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété, la foi en Dieu, et la justice, l'amour de la sainteté, et espère toujours en ton Dieu. » Donc, mets ta confiance dans l'Éternel, mon frère, ma sœur, mets ta confiance, n'aie pas peur, sois derrière Jésus, tu es dans de bonnes mains. Amen. Et c'est quel jour aujourd'hui? C'est mercredi, donc à vendredi. Que Dieu vous bénisse, à vendredi. Je vais regarder la place historique d'Israël dans le plan de salut. C'est important. Trop de gens veulent tout raboter dans la Bible, même dans les théologiens, même dans des bons pasteurs qui ont mis ça de côté. Mais quand on met quelque chose de côté de la Bible, eh bien, on n'est plus un bon pasteur. Même si on a du succès dans son église, même si on a du monde, pour moi, ça ne peut pas aller. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. Alors, je vous le dis. Apocalypse 22, verset 18. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, de la Bible. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Donc, il reste dans la tribulation. Si nous ajoutons quelque chose. Donc, tous les dogmes, tous les conciles, tout ce qui a été créé, tous ces trucs idolâtres où on adore les saints, etc., ça vient après. Donc, on reste dans les fléaux avec l'Antichrist. Alors, mais si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrit dans ce livre. Donc si quelqu'un retire des morceaux entiers de la révélation de la Bible, il n'a même pas la vie éternelle. C'est sévère. C'est Dieu. Dieu est bon, mais il est sévère. Vous savez que dans une école, dans une famille, quand on est sévère, on obtient des résultats. Et on peut manifester sa bonté à travers sa vérité. Et puis après, on peut relâcher la bride et montrer qu'on était plein d'amour. Mais si on est bon et qu'on n'est pas sévère, ceux qui sont sous notre responsabilité sont dans le péché et vont tout déformer. Tout déformer et pas vous respecter. Il en est de même pour Dieu. Dieu est bon et sévère, car il lui faut l'honneur, la gloire et le respect. Alléluia. À vendredi.